Il y a un mot quasiment qui est aussi devenu interdit et que même vous, là, vous dites presque avec difficulté, soit le mot France, soit le mot nation. Qu'est-ce qui peut valider d'une façon ou d'une autre l'idée que l'espace national est encore un cadre pertinent?
Alors, moi, personnellement, je pense que j'oublie de le mentionner parce que ça va tellement de soi que je suis content d'être français. Et surtout, l'idée de nation, ça doit être l'un des derniers mots, peut-être le dernier mot de l'illusion économique que j'avais écrit en 98 et où je prônais le retour à l'idée de nation contre les gens qui étaient dans l'idée que les nations s'étaient dépassées. Et j'expliquais que, d'ailleurs, plus tôt, j'associais déjà la montée en puissance de l'idéologie libre-échangiste et à un phénomène de désintégration culturelle des nations. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Simplement, j'en suis plutôt opposé. Je pense que la nation, oui, mais ça suffit pas, en fait, et que l'incapacité des sociétés avancées à produire du sentiment collectif pour des raisons psychosociologiques profondes, c'est histoire de narcissisation des comportements ou d'ultra-individualisme, est telle que le retour du mot nation n'a produit qu'un discours identitaire bidon, c'est-à-dire le discours qui était produit par Guénaud, Sarkozy ou même Ségolène Royal en bout de course. Donc où il s'agit de, en gros, la nation, c'est chantonner la Marseillaise ou devenir complètement hystérique quand trois gamins sifflent l'hymne national, on prend l'air de s'évanouir, tout comme ça. C'est devenu, je veux dire, dans le contexte d'affaiblissement des sentiments collectifs, le mot nation, quand il est utilisé, a tendance à devenir une sorte de hochet sans conséquence. Donc vous avez Sarkozy qui vous fonde un ministère de blablabla, blablabla, de l'identité, je ne sais quoi, et puis qui ensuite va aller se coucher devant les Américains et qui envoie des gamins se faire tuer en Afghanistan au service de l'armée américaine. C'est-à-dire, en fait, même plus sous le drapeau français, d'une certaine manière. Donc, c'est sans doute pour ça que je l'utilise plus. Mais pour moi, je suis toujours content d'être français. Et je pense que la société française existe. Je pense que, à la limite, ces histoires d'identité nationale me font rire. On n'a pas assez confiance. C'est pas vrai que la France est sur le point d'être submergée par l'islam. Tout ça, c'est un monceau de conneries. Les gosses qui foutent le feu aux bagnoles dans les banlieues, je ne dis pas que j'approuve. Mais c'est des petits Français mal élevés. Mais mal élevés, comme le sont des petits Français. Moi, je vois la continuité des bagnoles qui flambaient en mai 68 dans les quartiers bourgeois et des bagnoles qui flambent dans les banlieues. Ça fait, on pourrait voir ça comme un phénomène de capillarité sociale descendante, comme on dit. Donc, pour moi, la nation est là. Mais, par contre, ce qui est vrai, ce que je souligne dans le livre, c'est que la nation-société n'est plus à l'échelle de l'économie. C'est-à-dire qu'on vit une partie de l'impuissance des politiques, c'est que, finalement, ils peuvent se donner l'impression d'agir dans la société, ils peuvent manipuler le système politique, ils peuvent même provoquer des émeutes en banlieue, leur possibilité d'action économique, c'est contracter les revenus des fonctionnaires, des choses comme ça, mais la vérité, c'est que l'économie qui existe est l'économie européenne, maintenant. Il y a l'économie mondiale, mais surtout l'économie continentale européenne. Et bien entendu, c'est ça qui mine la démocratie. C'est que l'échelle du politique, la démocratie était à l'échelle nationale, la société était à l'échelle nationale, l'économie était à l'échelle nationale. Donc tout ça était bien emboîté. Donc on prend le pouvoir politique, on pouvait agir sur l'économie. Maintenant, on prend le pouvoir politique, on peut agir sur rien. Et donc ce que je dis, c'est, écoutez, si, comme on ne peut pas ramener l'économie à l'échelle nationale, pour sauver la démocratie, essayons, je dirais, d'étendre la sphère du politique à l'échelle de l'économie continentale européenne. Je veux dire, pour moi, c'est un gros travail, hein, parce que à l'origine, moi, je suis un anti-maastrichtien, j'ai été ramené à la conscience civique par les débats très violents de l'époque de Maastricht, où s'était développé ce discours élitiste, antipopulaire, antinational aussi, donc qui m'avait ramené à l'idée de nation, à l'idée d'intérêt des catégories populaires, puis des classes moyennes. Mais il faut être réaliste et il faut admettre que on ne peut pas gérer l'économie. Et donc, j'ai changé d'attitude vis-à-vis de l'Europe, et donc je suis passé d'une attitude du genre mais ils nous font suer. En plus, l'Europe est utilisée comme un instrument de plus dans la destruction de la démocratie, par espèce de nains intellectuels qui règnent à Bruxelles et qui ne sont que les agents du libre-échangisme triomphant, et puis les dirigeants nationaux s'abritent à ça. Cette Europe cheval de Troie, en fait, du libre-échange et du libéralisme. Et donc je dis, retournons l'Europe et faisons de l'Europe l'instrument de sauvetage ultime de la démocratie. Et donc essayons d'en faire le cadre de l'expérience protectionniste. Et donc, mais bien entendu, une Europe des nations. C'est-à-dire que si je dis, il faut l'Europe, mais arrêtons de nous raconter des histoires sur la participation lettonne à l'élaboration de la nouvelle doctrine, acceptons l'idée que l'Allemagne est la première puissance industrielle de l'Europe, que la France est la première puissance de contestation. On joue avec ces nations dans un rôle très subtil. Il ne s'agit pas non plus de nier l'existence des États moyens et petits. Je veux dire, en gros, l'idée en Europe, c'est qu'il y a suffisamment de différences culturelles et de désaccords entre Français et Allemands, et avec les Anglais, ça devient parfait, pour que si les trois plus grands peuples s'entendent, tout le monde y trouve à sa place. Parce que ça veut dire que le gros des différences, je veux dire, a été évoqué. Mais, si vous voulez, en fait, si on prend cette histoire d'effacement des croyances collectives, de sens du collectif comme le moteur, on se rend bien compte que l'opposition entre nationalistes et européistes est complètement bidon. Parce qu'en vérité, ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que il n'y a plus de sentiment collectif et tout le monde est perdant. C'est-à-dire que les nationalistes n'arrivent pas à faire revivre la nation et l'idée européenne est en train de mourir. Vous voyez, donc en fait, mais ce que je dis aussi clairement dans le livre, c'est que je veux dire, ça va être très dur à cause de cet état des mentalités ultra-individualistes, narcissisées. C'est pour ça que je dis que si on arrivait à mettre sur pied un projet comme ça, alors évidemment, la crise nous botte les fesses et ça augmente la probabilité. C'est un changement de niveau de conscience. C'est-à-dire, c'est une étape historique différente. Les gens qui ont une éducation supérieure continuent de s'intéresser à leur épanouissement personnel, mais ajoutent à l'épanouissement personnel une dimension de conscience civique et collective d'un genre tout à fait nouveau.
Sur l'Europe, ce qui me pose souci, mais peut-être allez-vous m'enlever mon souci, c'est quelle peut être la place du simple citoyen. Parce qu'en réalité, pour tout vous dire, moi j'ai le sentiment que déléguer les choses au niveau de l'Europe, les passer au niveau européen, ça suppose que les simples citoyens peuvent guère faire entendre leur voix.
Ah non, d'abord, déjà, une Europe où les instances supérieures, qu'elles soient bruxelloises ou nationales d'ailleurs, etc., s'occupe de relance des salaires, de relance de l'économie au niveau dit, c'est quand même une Europe qui s'intéresse aux citoyens. Je veux dire, c'est déjà quelque chose. Alors, effectivement, ça serait pas bien que de percevoir les choses comme, je veux dire, une sorte d'un système dominé par une caste de philosophes rois, c'est un modèle platonicien démentiel ou je veux dire, une aristocratie bienveillante. C'est pas du tout ce que j'ai en tête, mais c'est pas du tout ce que j'ai en tête parce que c'est pas possible. C'est-à-dire que les choses ne peuvent se mettre en place, en vérité, que ça va pas être mis en place par les gouvernements actuels. Je veux dire, par des espèces de nains intellectuels qui n'ont pensé à rien, qui pensent que filer de l'argent aux banques, c'est les nationaliser, enfin, tous les gens qui parlent du retour de l'État qui n'ont pensé à rien. Non, je veux dire, tout ça ne peut se produire que si émergent dans chacune des nations des forces politiques représentatives qui ont fait leur conversion au concept protectionniste européen, qui gagnent des élections, dans le cas concret de la France. Par contre, ça peut se passer à droite et à gauche, hein, d'une certaine manière. Moi, je pense que les basculements d'attitude sur ces grandes questions économiques touchent, avec des décalages, les deux parties du spectre politique. Mais par exemple, ce qui se passe actuellement au Parti Socialiste est quand même super intéressant. C'était inconcevable il y a quelques mois. La motion Hamon contient tout à fait l'idée de contrôle du libre-échange. Ça émerge en tant que force politique, compte tenu de de ce qu'est la structuration des votes au Parti socialiste, 19%, ça n'est pas négligeable du tout. Donc, je veux dire, l'Europe protectionniste, c'est une Europe dans laquelle les partis de gauche, de droite, ont fait une conversion à cette idée, où on continue à voter, on peut continuer d'ailleurs à s'affronter sur toutes sortes d'autres choses, dans un univers qui n'est pas asphyxié. Et la même chose en Allemagne, et la même chose dans tous les pays, en fait. Donc, en fait, il s'agit de faire revenir, dans un premier temps, le débat libre-échange protectionniste dans le jeu politique. Ce qui me fait parler dans le livre de démocratie de manipulation, c'est que, justement, on a des systèmes politiques qui arrivent à évacuer, avant même le débat principal, cette notion. C'est-à-dire, si vous avez Ségolène Royal contre Sarkozy, alors, c'est vrai qu'à la fin, Sarkozy a eu tellement peur de se planter que, on avait réussi à placer avec mon copain Hakim El Karoui le projet protectionniste européen à Villepin qui a fait quelques bruits. Mais l'important, c'est justement de faire revenir les thématiques économiques et cette thématique de contestation de la globalisation dans le débat politique démocratique. Donc il s'agit bien de sauvetage de la démocratie. Il ne s'agit pas d'une gouvernance d'un genre nouveau. Là, on a une... le projet des européistes ou des libre-échangistes fous, c'est ce qu'on pourrait appeler le projet d'une gouvernance sadique, hein, je veux dire, contre l'intérêt des populations. Ce que je suis en train de proposer, c'est certes des élites raisonnables, mais ça n'est pas une gouvernance bienveillante et méprisante pour les peuples.
Comment faire peser le poids de sa voix, de son vote de l'opinion publique, on peut dire, sur des gens qui prennent les décisions au niveau de Bruxelles? Moi, c'est ça que j'arrive pas à voir.
Non, mais il se passe rien à Bruxelles. Bruxelles est une fiction. Je veux dire, tout ce qui se trouve à Bruxelles en termes intellectuels, comment exprimer, je ne voudrais pas être méprisant, mais c'est pas là que ça se passe. Ce qui se passe à Bruxelles se passe parce que les gens de Paris, de Berlin ou de Londres veulent bien que ça se passe. Donc il suffit tout à fait de reprendre le pouvoir intellectuel et politique à Paris et Berlin pour que les gens de Bruxelles soient alignés ou virés.
Est-ce que ce que vous disiez sur les différents types de familles, est-ce que c'est ça qui peut expliquer le côté un peu effectivement bizarre des Français contestataires,
Je suis souvent contesté comme économiste, ce qui est tout à fait normal, puisque je ne suis pas économiste. Et donc, en fait, je dis des choses raisonnables en économie parce que je ne suis pas économiste. Vous voyez, donc, c'est que la profession d'économiste, Trahison des économistes, excellent livre de Gréau, que je recommande. Mais sur les structures familiales, l'anthropologie, ça, c'est mon domaine de compétences vraies. Vous allez me dire peut-être que moi, je délire dans mon domaine de compétences, comme les économistes dans leur. Mais l'essentiel de mon travail de chercheur... sur une vie de chercheur déjà longue, c'est d'essayer de comprendre comment la diversité des systèmes familiaux traditionnels peut expliquer des diversités de tempéraments nationaux. Donc si vous comparez en première analyse, prenez les Français et les Allemands, par exemple. Les Français, on va retrouver les idées de liberté, d'égalité dans la famille très individualiste, égalitaire des paysans du bassin parisien à la veille de la Révolution française. Puis on se rend compte que des enfants qui doivent se marier de façon autonome, fonder des ménages, des règles d'héritage très égalitaires bien avant la Révolution, dès le Moyen-Âge, en fait. Et puis, vous allez trouver là les racines du comportement de toutes les traditions anarchistes, radicales socialistes, ce qui fait l'esprit français, avec en plus en France un statut assez élevé de la femme qui se combine à ça. En Allemagne, il y avait ce qu'on appelait la famille souche, c'est des systèmes paysans à héritier unique, généralement l'aîné des garçons, quelquefois le dernier-né, et avec donc un certain autoritarisme dans la famille, puisque l'aîné marié restait sous l'autorité des parents, des enfants, et puis une inégalité fondamentale dans la famille, puisque les enfants ne valaient pas la même chose. Et donc là, par contre, ça permettra d'expliquer, dans les phases de transition, l'émergence d'idéologies assez hiérarchiques dans la tradition allemande. Ça peut être des idéologies hiérarchiques, paisibles, de type démocratie chrétienne ou social-démocratie, puis dans les phases de crise religieuse et économique absolue, le nazisme, en fait, des choses comme ça. Et puis maintenant, ça permet toujours... moi, j'adore l'Europe, j'aime me promener, particulièrement en Allemagne, Ma compagne dit que c'est normal que j'aime l'Allemagne, car elle dit que j'aime l'ordre et la saucisse. Donc, je trouve un peu caricatural, puisque quand même, le continent européen doit son alphabétisation globale à l'Allemagne. C'est là que ça a commencé avec la réforme protestante. Donc, l'Allemagne est vraiment au cœur du développement européen, bien avant l'industrie. Mais c'est clair que quand on se balade en France ou en Allemagne, on voit très bien que c'est des pays qui ont toujours des cultures différentes. Je veux dire, le rapport au feu rouge pour les piétons n'est pas le même dans les pays. Vous voyez, donc, mais cela dit, la France n'est pas qu'anarchie. Si vous voulez trouver une culture de l'indiscipline, c'est plutôt vers l'Espagne qu'il faut aller. Je veux dire, ça sera plus complet. Il y a des systèmes souches en Espagne, au Pays Basque, en Catalogne, enfin sur toute la bordure nord, mais il y a une beaucoup plus grande dominance de la famille nucléaire égalitaire du bassin parisien. En France, vous avez sur toute la périphérie du système national des systèmes souches. En fait, tout le sud-ouest, grand producteur de fonctionnaires, de postiers, avec des niveaux éducatifs plus élevés que le nord, en fait. Quand on regarde les cartes, moi j'ai travaillé il y a assez longtemps sur le recensement de 82, mais je pense que ça reste toujours vrai. La France est aussi le pays de grandes différences territoriales et puis d'un antagonisme interne. C'est-à-dire que c'est vrai que le bassin parisien, c'est la région de l'individualisme égalitaire, mais la périphérie, bon, l'Alsace évidemment, puisque les Alsaciens, c'est en termes anthropologiques, c'est un morceau de l'Allemagne, hein. Mais tout le sud-ouest, toute l'Occitanie, sans la façade méditerranéenne, c'est une région plutôt de familles souches d'ordre. Et ce que je trouve extraordinaire dans l'histoire de France, ce qui la rend séduisante à étudier et assez complexe, c'est le pays du désordre, mais c'est aussi le pays de l'ordre. C'est le pays où l'un des rituels est le caillassage de la police par les jeunes, mais c'est aussi le pays où tout le monde sait s'arrêter au premier sang. Hein? On l'a vu en mai 68, on l'a vu pendant les émeutes de banlieue. Et vu des autres pays, c'est très évident. Je ne sais plus quelle époque de grandes grèves. Il y a eu des grèves.
95.
Oui, celle-là, ou celle d'avoir des grèves SNCF terribles, où le pays était paralysé, mais. J'avais eu un reportage extraordinaire, où les réactions allemandes, c'était quel désordre! Et les réactions italiennes, c'est quelle discipline dans la grève! Et donc, la France, c'est le pays, moi c'est pour ça que j'aime bien ce pays, hein, vraiment, c'est le pays de l'ordre et du désordre à la fois, et c'est ce qui rend la vie dans ce pays assez intéressante. Oui, je suis un bon patriote quand même. Et c'est pour ça que les gens, moi ce qui me rend fou, c'est que les gens qui célèbrent l'identité nationale ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que la France, c'est le pays qui est si sûr de lui-même et de son histoire, que si des gamins crachent sur le drapeau, c'est dans la tradition nationale aussi. On n'est pas des Américains, on ne s'évanouit pas si le drapeau est brûlé, parce qu'on est sûr de ce qu'on est. Vous voyez ?
Et est-ce qu'on peut faire vivre en bonne entente des peuples avec des structures sous-jacentes aussi importantes, justement au sein de l'Europe ?
Je pense que c'est possible si on en est conscient et qu'on l'accepte. C'est-à-dire, j'avais été frappé quand j'avais publié L'invention de l'Europe, qui était une analyse assez poussée de toute une relecture de toute l'histoire européenne. Depuis 1500 à peu près, partant d'une grille familiale, des cartes très très précises, et Alice qui mettait bien en évidence à la fois les différences, ce que ça impliquait en termes de contribution nationale au développement de l'Europe. Donc, chacun avait son dû, l'Allemagne l'alphabétisation de masse, l'Angleterre la révolution industrielle, ça avait des rapports avec la plasticité de la structure familiale, la France, l'égalité, la contestation et la contraception aussi, puisque la France était pionnier dans le domaine du contrôle des naissances, et puis les différences de mœurs. Et j'avais été frappé à quel point le livre avait été bien perçu à Bruxelles. Alors là, dans les milieux de fonctionnaires internationaux, etc., je me disais, mais votre livre, c'est incroyable, c'est vrai, ça marche, ça nous permet de mieux travailler ensemble. Donc je pense que ça peut marcher si on accepte la différence. Il n'y a rien de tel. Le conflit, c'est si on essaie de se raconter que les Allemands et les Français, c'est la même chose. Alors là, on va dans le mur. Là, on va dans le mur simplement parce que c'est pas vrai. Vous allez en Angleterre, le premier truc qui saute aux yeux, c'est que les Anglais sont toujours vachement anglais. voyez. Et donc, si on accepte, je pense qu'on est à des niveaux éducatifs et de conscience suffisants, puis de voyage, les programmes Erasmus, pour ça, sont vraiment géniaux, hein. Truc d'étudiants qui circulent. Si on accepte de percevoir cette diversité, et si on ne se raconte pas, il y a deux choses qu'il ne faut pas se raconter. Il ne faut pas se raconter que les peuples sont la même chose, et puis il ne faut pas se raconter que ce qui est en train d'émerger, c'est une élite européenne séparée des cultures d'origine. Parce que la vérité ultime, c'est que même les élites de chaque pays sont des caricatures de leur pays d'origine. Il n'y a rien de... Un haut fonctionnaire français... Je veux dire, c'est un Français archétypal. C'est aussi différent d'un fonctionnaire allemand. Vous voyez, donc il ne faut pas retrouver le mythe d'une élite platonicienne, je dirais détachée de contingences culturelles. La vérité, c'est que les élites françaises parlent français, pataugent en anglais, ne parlent pas allemand. Vous voyez ?